La beauté des corollaires, c'est qu'en plus d'apporter un genre de fleur, un pétale, une corolle, une couronne, une vérité mathématique qu'on n'a même pas besoin de se fatiguer à démontrer à la périphérie d'un gros théorème, on se retrouve plus jeune à la fin qu'au début. Les corollaires font littéralement gagner du temps. Leur force, c'est de fonctionner comme des raccourcis, de découler sans effort et sans travail ou presque. Par exemple, de savoir se passer de mots entiers. Je cite page 119 de Corollaire d'un vœu, qui suit Stendhal. Ici, Stendhal me donne la permission de passer sans un seul mot entier par-dessus un espace de plusieurs mois valant des années, aussi usé d'abréviations, la littérature ayant le souffle coupé. Si pas stand, alors shakes. Fin de citation. On pourrait écrire une thèse déjà sur Stendhal et Shakes, tout court, parce qu'il y a quelque chose qui se tient debout, quelque chose qui tremble, enfin, il y a une porte qui s'ouvre, mais bon, je ne l'ouvre pas. Dans ce même livre, ou dans ce même hors-livre, dans les pages free-floating dont parlait tout à l'heure Laura, le feuillet recto verso de la prière d'inséré, qui est toujours prête à s'envoler, à tomber par terre, propose exactement le même bréviaire, la même invitation à la brièveté, « Si pas Stendhal, alors Shakespeare ». Si pas Hélène Cixous, alors L6 pour aller vite. J'ai essayé de trouver une langue qui va vite. Je tente ce raccourci, c'est tentant. J'en trouve un à toute blinde et sans voir ni lire très clair. C'est deux lettres, donc c'est AN que j'essaye de suivre à la trace. Un espèce de participe présent permanent, une traduction de ING, un coup de vent. Je décide de relire à toute vitesse ou à toute vitexte, comme dit Parti, le corpus HC. Impossible, évidemment. Impossible matériellement et philosophiquement. Y compris parce que le mot de corpus ressemble plutôt à une invitation à éclater de rire. Qu'est-ce que c'est qu'un corpus? Ça commence où? Ça finit où? Cixous. Le seul mode que j'entrevois, c'est le mode rhizome. Se changer en un genre de plante, dite proliférante ou traçante, de type asperge, la voilà, iris, gousse de vanille, arôme ou chien dent, tout ça sont des rhizomes, ou ressembler à la racine qui inaugure la première page du voyage de la racine à Leczinski. La beauté d'un rhizome, c'est qu'il est sans feuilles, ou plus exactement que ses feuilles sont réduites à des écailles, des nœuds. On passe très vite en mode rhizome du végétal à l'animal, par exemple de la racine à Leczinski, à une chose, je cite, qui roule sur le ventre, déplace ses stries et ses anneaux en pagayant de toutes ses pattes ocellées. Ces stries, ces anneaux, autre nom des corollaires, ce sont des antiracines rhizomantes dont les feuilles se comportent comme des écailles. Pour lire L6 très vite, il suffirait donc, c'est un corollaire ou un corollire ou un collire si on attrape mal aux yeux, de prélever une écaille, de croire qu'elle va croître, de la laisser rhizomer, de passer par un petit nom, par un nom en raccourci de l'écriture, parce que les premières pages d'Or, le livre de mon père, appellent, je cite, le rat de l'écriture, R-A-Z, avec un Z rhizomatique, ou juste un Z pour aller vite et atteindre une vitesse supersonique. J'en viens donc au rat d'une lecture de juste deux lettres, A-N, que je ne sais pas trop comment prononcer, une syllabe en tout cas qui semble insister, qui pointe son museau un peu partout, à travers titre, à travers texte, à travers le corpus corpusculaire, de dedans à correspondance avec le mur ou à une autobiographie allemande, une syllabe qu'on peut prononcer de plusieurs façons, écrire de plusieurs façons, an, un, en, et qu'on prononcera donc différemment aussi selon la langue du titre parlé, qui passe à toute vitesse à travers angst, Ananke, Man au Mandelstam, au Mandela, Manhattan, Manhattan, jour de l'an, l'ange au secret, et pas seulement, en ouvrant Messie, c'est sur un âne qu'on tombe, l'âne d'Abraham que relève Derrida en 98 à Cerisy, dans ses deux lettres à lui, HC pour la vie, c'est-à-dire, autrement dit, je cite donc rapidement ce chapitre où la narratrice du micro-chapitre ou du rapide message de Messie, intitulé « De la ménagerie à la philosophie », cherche à donner voix à ce que la Bible oublie ou omet, à savoir ce que se disent Abraham et son âne en chemin vers le mont Moria. Je veux rendre la parole à l'âne avec Abraham. Pas facile de faire parler ou de laisser braire un âne, ni de l'entendre parler ou braire, car, je cite encore Messie, quand on lui demande « Tu es mon âne ?», il entend « Tu aimes mon âne ». En A-N, ce serait donc un, espèce, un bon début pour tenter de pratiquer la, la technique du braiement ou son onomatopée en I-N, à ceci près que c'est difficile de marcher au pas d'âne puisqu'on risque de perdre la piste de l'animal en même temps. A-N, bien sûr, je ne vais pas insister trop longtemps, mais c'est aussi bien sûr un morceau d'oran, un morceau d'orange, quatre lettres, donc oran, dont deux se sont déjà métamorphosées en titre, or, les lettres de mon père. Mais les deux dernières, A, N, sont là partout, des lettres d'enfants, de prénoms d'enfants, qui laissent leur marque avec acharnement et parlent d'autant plus qu'on demande au mot enfant, infants, de se taire. J'ai déjà essayé de parler ailleurs de l'âne chez Derrida, qui signe ses textes à coups de donc, de que donc et donc de donkey, donkey, un peu partout, en particulier dans l'animal que donc je suis, où je ne peux pas ne pas voir passer un âne bizarrement à l'envers. Chez Sixou, il y a aussi de l'an, de l'âne, de la haine et de l'an, de la A-N plus loin, de l'an, un chva, avec le chva anglais en plus d'une langue. Ce n'est pas seulement une syllabe, c'est toute une grammaire, une nouvelle syntaxe qui permet de sauter par-dessus les barrières érigées dans les langues, par exemple la simple différence entre oui et non. En essayant de parler français avec un registre donc populaire, on peut effectivement se demander si oui et non ne sont pas des sons très, très rapprochés. Finalement, il suffit de penser à non ou de en, ou non, oui, qui peut dire oui ou non. Si an est grammaticalement un préfixe censé exprimer le manque, la privation, la suppression, il n'en va pas ainsi dans la langue L6. Je cite les dernières pages de Houlard de l'innocence, 1981. Ce texte qui commence par s'en prendre à la grammaire et par inventer un verbe à partir d'un adverbe. Je cite « J'attends, j'avant » à V-A-N-T ou « à l'avant-vie » page 7. Je saute vers la fin, page 302. Cette fois-ci, c'est une voix nommée Aura qui parle. Ma voix veut vivre dans une langue préhistorique, en les régions, E-N, non cadastrée. Je veux mot nument, N-U-M-E-N-T, syllabe nomade, prénom fixe, mot regorgeant de mots, coquillage. Il me semble d'ailleurs qu'il y a une coquille juste à... Le texte dit mot regorge de mots, coquillage, faune, pactive, passive, assive. Je veux l'anglais. Qu'est-ce qu'il y a dans l'anglais? L'an, E-N, y a l'an, et l'angle. Je veux l'anglaise, langue sans l'angoisse, la gaie langue, la langue au loup, l'apostrophe au U, accent circonflexe, les mots courts bouclés sur la tête, et là arrive une citation de l'allemand, « Kennst du das lange, wo die Zitronen züngen ?» page 303 dans Houlard. La citation vient de Mignon, à partir de Wilhelm Meister, de Goethe, et le mot, enfin il y a plusieurs mots intéressants bien sûr là-dedans, il y a ces magnifiques citrons, et puis il y a aussi avec un Z, et il y a aussi züngen, alors qui bifurque, que j'ai cherché sur Google, et il n'y a pas, si j'ai bien cherché, il n'y a pas züngen, il y a par contre züngen. Bon, alors, et là, alors que Goethe a écrit « Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen ?», le texte de « Où l'art de l'innocence » réécrit, non pas « das Land » mais « das Lange » et « züngen » au lieu de « blühen » où sans doute les deux points, les umlauts, sont venus d'un coup de vent depuis « blühen » vers « züngen ». Connais-tu la langue où les citrons fondent, la langue où les citrons fondent sur la langue, si c'est ça que ça veut dire. Donc le texte de Houlard de l'innocence prend ensuite de la vitesse via un poème pour quelqu'un qui a un nom magnifique qui s'appelle Antoulia, qui doit pouvoir se prononcer aussi Antoulia, A-N-T-O-U-I-L-I-A. Ce texte est écrit, ce petit poème qui se met en place dans la page s'écrit autour de, je cite, « notre vol autour de Terre » dont on a parlé ce matin aussi, la planète, la mandorle, c'est page 303, et il adresse sa toute dernière page à « plus personne ». Il n'y a plus personne. Car, je cite, « personne n'est resté signé. Toutes sont allées vivre hors programme quelques vies énormément transgressives. Elles transvivent. » Et là, je cite les trois adjectifs qui ponctuent la phrase « anéconomique, anormale, s'en allante », page 310. Et là, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la grammaire, de la syntaxe positive, affirmative, non négative de ces anéconomiques anormales, ce qui est anormal au niveau de la syntaxe, mais c'est positif ici. Les deux premiers adjectifs sont tirés par le troisième moteur, s'en allante, ce mot s'en allante, cet adjectif qui ne tient pas en place, qu'aucun dictionnaire ou dictionnaire, comme j'aime bien les appeler, sous un espèce de dick masculiniste, qu'aucun dictionnaire n'épinglera jamais dans ses colonnes. Les deux premiers mots préfixés par « an », un économique anormal cesse d'être négatif par contagion ou par alliance, cesse d'être lisible en tant que négation. Ces mots rebasculent du côté positif, traversent la barrière de la peau des oppositions pour devenir des formes troublantes, unheimlich, de s'en allance. C'est sur son rôle, c'est sur une drôle de prière que se termine ce livre, je cite, une prière adressée à ce qui s'appelle à ce moment-là le temps vivre. Encore un an. Je cite, « Ce n'est pas sans pressante raison que je prie politiquement Dieu. » Dieu est entre guillemets et prie politiquement à un tiret. « Ce n'est pas sans pressante raison que je prie politiquement Dieu d'exister. Nous, dis-je, ô Dieu, nous, première personne de notre pluriel, faisons que nous soyons toujours capables des 43 innocences. Faisons, dot, dot, dot. » En 2005, avant de prendre la forme de feuilles volantes, ces feuilles volantes dont on a parlé déjà, qui sont des prières d'insérer, des manuscrits volants, des manuscrits aussi. Donc 2005, c'est la date de Insister, et donc une partie de ce texte a été écrit par Jacques Derrida en avion, donc c'est aussi un texte volant. Mais la feuille volante qui lui sert de prière et de préface est aussi capable de tomber par terre et donc de voler ou de ne pas voler. Les prières dans ce texte s'énoncent donc dans des formes paradoxales, et que ne recommande aucune faculté. Par exemple, donc, avant d'arriver à ce stade de cette formation typographique et graphique, ou adossée à du papier, il y a des prières dans le corpus précédent, mais elles s'énoncent aussi dans des formes étranges que ne recommande aucune faculté de théologie. Elles s'énoncent par exemple au futur antérieur. Je cite la dernière ligne de dedans, ce texte en forme de bouteille de Klein, dans lequel la porte de sortie est à l'intérieur ou à l'antérieur. Dedans, nous aurons cessé de mourir, page 209. Dedans, c'est aussi un livre du temps vivre avec son double coup de « en ». Sa mâchoire à dedans, c'est un livre contenant et débordant qui contient à sa façon les corollaires ou au moins une corolle. En cherchant, elle est là, la corolle. Page 89, scène du cimetière, de la tombe, je lis « Sur la pierre, une seule fleur de jasmin, corolle à plat, baiser blanc sur la pierre. » Plus loin, des dents émergent d'une partie de lecture de la photo de famille posée sur la tombe. Je cite « Tout est mort, même l'émail des dents qui devrait luire est terne. » Fin de citation. En passant par l'émail des dents de dedans, on arrive directement à travers temps, un temps qui n'est pas celui de Chronos et qui n'est pas chronophage, après tout c'est pas mal, mais qui au contraire donne du temps aux toutes premières pages de Sigu. Je cite, page 11. « Maman n'est pas dans maman, il y a quelqu'un d'autre. » Au moment de transformer ses dégâts en récit, la narratrice pense à un titre en attente. Je cite, « Pour titre en attente, j'ai tout de suite pensé à « dents ». Finalement, je l'ai écrit « dans ». Donc c'est d'abord écrit « d-a-n-s » puis « d-e-n-t-s ». Le texte ajoute, donc, pour titre en attente, j'ai tout de suite pensé à « dents ». Finalement, je l'ai écrit « dans », c'est pareil. Retour des dents, plus loin, page 16 dans Sigu, au moment de décrire le visage de la mère, je cite, « Je ne l'avais encore jamais vue vivante sans dents, comme retirée de son vivant. » D'ailleurs, la syntaxe, elle aussi, là, est intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire, retirée de son vivant ? Est-ce que de son vivant, c'est le contenant duquel elle est retirée, ou est-ce qu'elle est retirée pendant sa vie de son vivant ? Ainsi, me dis-je, tout dépend des dents, et tout dépend des deux aussi, des deux sont vivants. Ça, c'est un début de dents. Pour écrire, il faut donc des dents. Elles reviennent dans l'ange au secret, je cite, « Je ne sais pas où passe la frontière entre se nourrir et manger. » J'ai chanté mon père mort, mais ce qui est sûr, c'est que je ne l'ai pas assassiné, je n'ai pas dévoré sa chair, non que je m'y sois refusé. Mais le temps ne s'y prêtait pas quand il est mort. Je n'avais pas d'écriture, pas de langue, pas de dents et aucun appétit. Page 164. Ce sont aussi paradoxalement ces textes en « en », ces deux lettres « an » ou très souvent « en » qui passent ou sont envoyés dans la lecture de Jacques Derrida, « HC pour la vie », c'est-à-dire dont on peut rapidement écouter l'ouverture en forme d'adagio en « en » en mineur. Je cite. Page 13, Derrida. Au moment de commencer, avant même de commencer, en ralentissant, adagio, et même lento, lento, on sait, oui, on sait qu'il faudra toujours recommencer. Dans ce grand texte donné à Cerisy, qui résiste de toutes ses forces à une version en abrégé, c'est un texte impossible à abréger, dans lequel même Derrida cherche la langueur, qui a besoin de toutes ses pages, Derrida met en scène deux côtés, je résume très vite, Derrida pour mort, contre, HC pour la vie, dans un exercice d'impossible traduction qui passe par la puissance, qui va appeler la puissance pendant un certain nombre de pages. Ce concept de puissance avec aussi un versant mathématique propre, en puissance, à la puissance, et puis une grammaire subjonctive, puisse ou optative. Mais on pourrait lire ce mot lui-même comme un point de passage impossible, une tentative de traduire Sixou en Derrida, la ménagerie en philosophie, si on peut dire. Point de passage impossible, c'est à la fois un effet de puissance et d'impuissance de la traduction, un impossible passage à guet du côté de la vitesse qui s'appelle L6. Ce qui s'écrit AN sous la plume HC devient, on le voit, le plus souvent EN dans la texture d'Derrida. Il traduit les en avec un E. Quand circule une particule libre, un électron de AN, il arrive attaché au grand corps masculin qui commence par un P majeur, la puissance. Il y a du AN, mais ça rentre par un P. Un texte est cité très longuement par Derrida qui insiste, qui tourne autour à sa façon très animale de tourner autour des textes, de sentir les bords. Il y revient et pourtant, il me semble qu'il reste à côté d'un mot, mais c'est peut-être moi qui me trompe, c'est quand il lit « Jour de l'an ». Une citation tirée de la page 46-47. Il s'agit d'une scène de prénomination avant la naissance du prénom Alexander. Prénom de l'enfant avant de naître, il est question de Marina Tsvetaeva, mais pas seulement. Donc prénom donné par une mère qui parle allemand. Derrida, lecteur du jour de l'an, suit la piste d'une opposition entre vie et mort, d'une opposition entre deux côtés, côté mort, côté vie, ou côté côti, comme il l'appelle. Il s'agit pour lui de déconstruire cette opposition, ce qui ne lui demande pas beaucoup de temps. En une phrase, c'est fait, page 50, la vie n'a pas d'autre côté. Mais il s'empresse d'ajouter quand même quelque chose. Celle-ci est indécidable, virgule, certes. Et puis certes, cet adverbe va revenir tout à la fin et ne cesse de reponctuer l'essai de Derrida en toute fin. La fin du texte retourne sur le terrain de l'opposition. Je cite, « La mort compte pour elle, certes, à chaque page, mais elle-même, elle ne compte pas, page 140. » Certes, évidemment, fait partie de ces mots qui troublent le positionnement. Un mot secret, Hélène Cixous a déjà joué avec ce mot bien avant. Un mot secret, réversible, un mot de certitude qui en fait sème le contraire de la certitude et qui endommage la puissance de vie. C'est tout contre cet adverbe que s'ouvre en 2002, deux ans après la publication des textes de Cerisi, le texte de HC intitulé Manhattan, dont je cite la première phrase. Je ne voulais pas aller à Certes. Cette fois, il s'agit d'un adverbe vivant, c'est-à-dire d'un adverbe ville, un genre d'Advil, un drôle de médicament pour les vivants. Manhattan est un texte qui reprend la piste des deux côtés, mais cette fois, les deux côtés ont le même nom. Les deux côtés s'appellent vie. Je cite, « Le jour même où la vie, comme j'appelle la littérature, m'était rendue, l'autre, la vie, ce dont parlait tout à l'heure, je pense, René de Segati, me propose d'aller de l'autre côté, page 10. » Dans cette histoire de côté, il y a, semble-t-il, une chose à côté de laquelle Derrida est passé, qu'il n'a pas vue dans Jour de l'an, c'est la traduction de under, justement, de l'autre, ce qui ne signifie l'autre que si on parle allemand. Que veut dire under dans le prénom Alexander, traduit par l'autre dans Jour de l'an, et cet autre, est-ce un autre par altérité ou par altération? C'est pas du tout la même chose. Quelque chose n'est pas commenté par Derrida qui se glisse dans cet autre sans en interroger le retournement. Cet « under » dans Alexander, c'est au départ l'homme en grec, « andros »,« André » en français. Ce n'est qu'en allemand que « under » peut devenir « autre », un autre ou une autre d'ailleurs, et que de l'homme on passe chez L6 à l'autre en langue « under ».« Under » est autrement dit le nom de la métamorphose, du déplacement, mais ce déplacement semble ralentir en mode « ment », M-E-N-T, et prendre de la vitesse en passant par « an », A-N. Qui le dope. Si Derrida semble être passé à côté, c'est peut-être moi qui n'ai pas lu correctement, mais s'il semble ne pas commenter la traduction de cet under, que le texte de Jour de l'an traduit à partir de l'allemand et non à partir du grec, il en découle, me semble-t-il, une différence de géométrie. La lecture derridienne suit les contours d'une géométrie d'angle et de côté, qu'il décrit longuement pour arriver au mot grec qui signifie justement côté en grec, goné, et qui, par extension, désigne aussi la génération et la généalogie. Ça a l'air d'être très loin, mais en fait, c'est tout près. Il suffit d'entrevoir, même si on n'a pas fait de grec, de regarder la forme d'équerre dressée du G majuscule en grec, qui fait un magnifique angle droit, et on comprend tout de suite de quelle sorte de géométrie orthogonale et de prolifération par phallogocentrisme il s'agit. Or, une mathématique à corollaire semblerait plutôt se passer d'angle. Un corollaire est une conséquence, un énoncé, qui suit, ou plus exactement, qui découle. Il entre un espèce de devenir liquide dans ce découlement, peu ou pas d'angle. Under n'est pas l'autre qui s'oppose au même, autrement dit, on n'a pas d'angle, pas de géométrie du trait. C'est l'autre au féminin pluriel, c'est l'entre, ou entrée avec un A, en portant un drôle de costume effaçant, comme on disait tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a pas le temps du tout de... Je ne sais plus combien de temps il me reste, sans doute pas beaucoup. Une minute, bon. Donc, il n'y a pas le temps, ça tombe bien, mais de prendre son élan pour traverser d'autres textes fondamentaux, Angst, 79, Ananke, 88, Manu Mandeshtam, Mandela, 90, L'Ange secret. Ces livres ont des côtés dont les angles sont désangulés, des langues, des anges, des morceaux capables de se recombiner comme une molécule recombinante. Si pas d'angle, alors pas de généalogie. Si pas d'angle, alors pas de mariage. Mais plutôt ce que Deleuze a appelé des noces et HC des fiançailles, ce sont des mots au pluriel, avec AN. La grande force de cette syllabe A-A-Nantes en AN, c'est qu'elle est toute en molécules. C'est une espèce de gel qui coule de titre en titre, un solide liquide, une suspension colloïdale comme le lait ou la cellulose, celle dont on fait le papier bible sur lequel est écrit Ananke, celle qui permet de sortir de l'angoisse enfermée dans Angst et qui se trouve en un rien de temps une porte de sortie chez Antoinette. Je cite. Ainsi, Angst m'avait amené à la rencontre d'Antoinette, AN, la devançante. On est en juin 1976, pardon, je suis en train de tout mélanger là. Tous ces titres et ces boudins courent au pas d'Atalante, qui, avec le nom qu'elle a tout compris à la vitesse. Elle va lentement, un peu comme Derrida, mais elle sait aussi aller vite. Aller vite, ce n'est pas afficher des kilomètres au compteur, ce n'est pas seulement le vertige de la vitesse. Je cite Derrida qui évoque l'article que Deleuze a consacré à Hélène Cixous sur l'écriture stroboscopique d'Hélène Cixous. La vitesse, pour Deleuze et Guattari, c'est une différentielle. Je cite, c'est par perte qu'on progresse et qu'on prend de la vitesse, page 64 dans Mille Plateaux. Cette perte s'appelle aussi ligne de fuite chez eux, à ne pas entendre du tout en un sens négatif. Et là, je pense que je vais passer une citation pour arriver à la fin. Retour à L6 en 30 secondes. Je clique pour aller vite sur Google les deux parties du nom abrégé, L6. Ça marche. Réponse immédiate de Google, chien fidèle. Il existe un trajet en avion qui relie ces deux points ainsi nommés. C'est un trajet nord-sud et de travers qui parle la langue abrégée des codages d'aéroports. L, c'est Helsinki et 6, c'est Chicleyo. Il faut 21 heures d'avion au moins et plus de deux changements, beaucoup de correspondances, dit la page Google, car Chicleyo, c'est au Pérou. Évidemment, le Pérou, c'est loin, sauf si c'est Cixous qui parle de Pérou, auquel cas, c'est ici, Pérou. Voilà, je vais arrêter là parce que...
Merci beaucoup pour cette déambulation très ingénieuse à partir avec Anne, etc. Vous l'avez magnifiquement décliné. Vous aurez vu que nous sommes passés d'une matinée consacrée à l'origine, aux questions des origines et des mémoires, à un troisième temps qui était encore consacré à la mémoire. On va à la fois s'en éloigner et s'en rapprocher, puisque une autre chose qu'on entendait très bien dans la communication de Marie-Dominique Garnier, c'était cette dimension florale, botanique, zoologique aussi, qui est évidemment au cœur de nos considérations sur le corollaire. Alors je cède la parole à Catherine Nessy, qui est professeure d'études françaises, d'études féminines et de littérature comparée à l'Université de Californie, sur le campus de Santa Barbara. Elle a beaucoup écrit, elle est connue comme 19e-iste, bien entendu, sur ces interrogations continues sur la différence sexuelle, la performance des genres, qu'elle a notamment traqué dans Balzac avec un livre sur la femme mode d'emploi, qu'elle a reprise aussi dans un très bel essai sur la flânerie, mais la flânerie au féminin, la flâneuse, la figure de la flâneuse à l'époque romantique. Son dernier ouvrage collectif porte sur George Sand, dont elle est assurément l'une des spécialistes, et elle travaille actuellement à la constitution d'un deuxième volet autour de cette figure de la flânerie. Alors elle va revenir à la mémoire, mais je pense d'une autre façon que ce qui a été entendu jusqu'ici.
Voilà, je vais vraiment parler en 19e-iste, un spécialiste de Balzac, hein, vous allez entendre, c'est côté balzacien qui revient chez moi. Donc le titre a un peu changé, mais en fait je vais quand même vous parler de mémoire, d'histoire et d'oublier, et de l'écriture pré-post-Shoah chez Hélène Cixous dans Garde d'Osnabrück à Jérusalem. Le titre que je vous donne, ça vraiment correspond tout à fait à ce que je vais vous présenter. Et je joue sur le terme d'enfantôme que crée Hélène Cixous dans Portrait de Jacques Derrida en Jeanne Saint-Juif. Et j'ai continué, j'ai dit pourquoi pas l'enfantôment, dans quel André, donc il y a encore un « en » quelque part, corollaire d'un secret. Alors, je n'ai pas, j'ai d'habitude mes propres exemplaires des livres d'Hélène Cixous, mais j'ai celui de la bibliothèque pour corollaire d'un vœu, et il y manque le prière d'inséré. Donc, je ne sais pas ce que dit Hélène dans prière d'inséré, mais en travaillant sur le trésor de la langue française, parce que je suis obsédée par le personnage de Zucker Crunchen, je suis allée voir un corollaire, une étymologie du latin corollarium, petite couronne. Hein, donc cette petite couronne de sucre, évidemment, mais tombée dessus. Et puis à l'époque classique, c'est une petite couronne donnée comme gratification, surtout aux acteurs, d'où don supplément. Alors évidemment, là, j'étais dans une espèce de constellation que j'ai un petit peu poursuivie ici dans cette réflexion. Dans le travail, la réflexion et les jeux sur et avec la mémoire occupent depuis toujours l'écriture, la profération, l'être au monde dans l'œuvre d'Hélène Cixous, du livre de Prométhée. J'ai trois mémoires, la paléolithique, la biblique, la poétique, à Gare d'Osnabrück à Jérusalem, en passant par les magnifiques pages d'or. De l'union d'oubli et de mémoire, nous renaissons à volonté. Avec Gare d'Osnabrück à Jérusalem et les textes qui, depuis le premier Osnabrück, ouvrent le flot des récits homériques de la mère aimée, M qui rime avec rêve, M qui rime, tout simplement, la mémoire familiale et maternelle, ses oublis et ses silences, accompagnent et traversent les mémoires bibliques et poétiques. Dans le second Osnabrück, les lamentations de Job côtoient Ulysse et l'Odyssée, Ovid, ses tristes et ses métamorphoses, le roi Lear et une Cordélia écran cachant une Régane mortifère, Hoffmann et le couple Olympia-Nathanaël, Balzac et le colonel Chabert, Proust et les méprises de Marcel ou ses jeunes filles en fleurs, Kafka et Felice Bauer et sa dent d'or, le chasseur Gracchus et son voyage infini, Freud, le fantasme, l'Unheimliche et j'en oublie. La mémoire torsadée, superbe expression du fils dans Gare d'Osnabrück à Jérusalem, entrelace des tresses biographiques, post-mémorielles, mémorielles et historiques. Les différentes nattes incluent notamment la prosopopée des morts, l'entretien infini avec la mère revenante, les récits d'expériences et des souvenirs transmis par le biais des histoires, des images et des attitudes du milieu maternel élargi au sein duquel a grandi Hélène Cixous, le voyage dans le temps et dans l'espace, le voyage intérieur, le retour sur et à Osnabrück et la mise en scène éclatée, dispersée de sa communauté juive à travers trois moments forts de l'après-Shoah, 1933, 1935, 1938, puis l'explosion de la solution finale et la déportation. La contemplation et le commentaire des photos d'époque, ainsi que l'usage des archives de l'arianisation et de la discrimination antisémite à Osnabrück, montre le soin qu'a apporté Hélène Cixous au travail sur le matériau historique et son lien à l'histoire familiale dans Gare d'Osnabrück à Jérusalem. Les bribes de l'histoire familiale de la Shoah rejoignent la mémoire biblique par la même figure judéo-chrétienne de la poussière. Celle de Job, qui devient Ihob dans le texte, énonçant son effacement à venir, et celle des déportés, effacés, anéantis, dans l'anonymat d'une même poussière. Car Osnabrück, ville de l'origine, où prend sa source Ève ma mère, dit la narratrice poète, est aussi le lieu du traumatisme familial et collectif. De ce carrefour géographique et historique est en effet partie cette famille à moitié déportée, à moitié disséminée, qui est la famille de ma mère, l'Allemande d'Osnabrück, comme l'écrit Hélène Cixous dans le portrait de Jacques Derrida en Jeune Saint-Juif. Je vous propose donc d'étudier quelques exemples de la quête mémorielle dans Gare d'Osnabrück à Jérusalem pour retrouver la trace des déportés assassinés. Voilà, ça m'est bien. Voilà, donc en fait, je vais laisser passer ça. J'ai coupé un petit peu mon texte, donc ça correspond plus trop. Mais excusez-moi, attendez, j'aimerais bien revenir. Ça va un peu trop vite. Alors, comment je reviens en arrière? Voilà, et voilà. Très sensible, cette machine. Alors, tac. Voilà, là, on a la photo. Voilà. Donc, pour retrouver la trace des déportés... Oh, elle est très énervante, cette petite machine. Voilà, on reste là. Qu'est-ce qu'il y a? Oui.
Vous avez mis mode film?
Non, je ne sais pas, j'ai rien fait. Bon, voilà, on va rester là, j'espère. Il ne faut pas que cette image me fuie. Pour retrouver la trace des déportés assassinés, comme celle des survivants, je partirai de l'héritage imprévu du voyage, le don d'oncle André, Andreas Jonas, l'oncle maternel d'Eve Sixou, né Klein, et frère aîné de Rosalie ou Rosie Klein, née Jonas, la grand-mère allemande d'Hélène Sixou, devenue Omi après son installation à Oran. Sur cette photographie de 1935, Andreas Jonas figure de profil. Le premier, depuis la droite, cette photo reproduite dans le cahier de documents de garde d'Osnabrück est magnifiquement commentée dans le texte, est repris dans l'ouvrage « Stationen auf dem Weg nach Auschwitz, Entrechtung, Vertreibung, Vernichtung », un livre donc sur la communauté juive d'Osnabrück entre 1900 et 1945. Et c'est donc ce texte que cite aussi à plusieurs reprises Hélène Sixou et dont elle salue le travail. On y voit le grand-oncle, donc sur cette photo de l'écrivain, sur le quai de la gare d'Osnabrück, le 23 octobre 1937, on en a déjà parlé ce matin, alors qu'il vient faire ses adieux à son ami Gustav Stein, en partance, avec sa femme et ses deux enfants pour la Palestine. La photo qui a survécu aux décombres réanime ses sujets morts. Médium d'enfantement, médium d'empathie, médium de projection, elle sert de revenant spectral d'un passé irrémédiablement perdu, mais en même temps qui va être recréé, retrouvé dans l'écriture. Mais surtout, elle nous permet de toucher des yeux l'une des victimes du génocide qui va devenir le héros tragique de cette odyssée de Sixou, texte, expression du texte, que Demel met en scène gare d'Osnabrück à Jérusalem. Voilà, un petit gros plan. Donc, je partirai de cette expression d'unique Versel pour partir à la recherche d'oncle André sur les traces d'Hélène. Inscrit à la croisée de l'histoire et de la mémoire individuelle, familiale et collective, l'enquête dispersée et les voyages rêvés, retardés ou entrepris qu'évoque gare d'Osnabrück à Jérusalem illustrent l'unique Versel, pour reprendre l'un des mots composés de l'écriture philosophique poétique d'Hélène Sixou. L'enlacement de l'unique et de l'universel, du singulier et du pluriel, s'y incarne en effet dans le personnage tragique d'oncle André, comme l'exprime la narratrice et poète. Je la cite, « Plus j'avance dans la ténèbre humaine à la lueur de l'écrit, plus la vérité de l'affaire Andreas Jonas m'apparaît comme un triste et monumental trésor, une des clés secrètes de cette époque terrifiante. » Si l'écrit éclaire et soutient le lent parcours dans les profondeurs sombres et scellées de l'humain et sa part d'inhumanité, la quête obsédante et déçue de la vérité, dans le cas d'Andreas Jonas, mène à la découverte d'un trésor ambivalent, à la fois mélancolique et monumental, qui constitue néanmoins une clé de lecture, d'intelligibilité pour toute une époque marquée du sceau de la terreur. Andreas Jonas est ici lié au secret, hein. Il est une des clés secrètes, donc au désir de son dévoilement, aux failles de la réciprocité dans l'échange. Il appartient au secretus, à la séparation et au refoulement du dire. Et l'une des lois de l'histoire, hein, comme dit ma fille dans le texte, était ne pas en parler, justement. En tant que père assassiné, er mordet, il sera enfoui, sous le silence qui protège les descendants de la victime et du malheur, tel son fils survivant Hans Günther, émigré au Chili, qui ne parla jamais, en lettres capitales, de son père à sa fille et nièce, comme le rappelle le post-scriptum du texte. C'est bien sur le mot « silence » que se boucle ou tente de se boucler le livre, le voyage, la quête de la vérité, l'épopée ou l'odyssée de Sixou. Mais oncle André représente aussi le nom inattendu de la ville mythifiée d'Osnabrück à sa visiteuse voyageuse rêveuse. Voilà, toujours l'oncle André. Quand je me suis présentée à la ville, il se trouve que ce qu'elle m'a tendu, c'est la tragédie d'Oncle André à laquelle je ne prétendais pas, mais le livre en a hérité. Cet héritage pour la visiteuse de la ville maternelle et avonculaire et pour les lecteurs et lectrices se manifeste sous plusieurs formes et notamment par ces pierres de mémoire et d'achoppement reproduites en pleine page et en vis-à-vis de l'excipite du texte comme un codicille ou un appendice visuel ou scripturaire. Bon, ça va disparaître, c'est pas grave. On le laisse comme ça, comme il n'y a plus rien, voilà. Donc appendice visuel et scripturaire. Les deux pavés mémoriaux à l'effigie du couple d'Andreas et Else Jonas condensent leur vie de personnes exterminées en chiffres dans le temps, hein, année de la naissance, date de la déportation et de l'extermination, et en deux lieux, celui de la vie passée dans la Friedrichstrasse, pointé par le déictique hier, ici, hein, hier wohnt, ici vécu, ici demeura, et l'autre lieu cette fois du meurtre, Theresienstadt, hein, le camp de Thérésine. Le pavé en forme d'état civil rappelle une présence effacée et en serre sur la même surface l'ici de la vie passée, le symbole du chez-soi et l'ailleurs de la mise à mort. Le pavé mémorial relève ainsi d'un rituel de vérité et de nomination pour ceux et celles qui ont disparu dans l'anonymat. Ces pavés biographiques, encore une expression du texte, témoignent d'un souci de mémorialisation collectif visant l'inscription publique et pérenne dans la rue, à même le sol, du souvenir des victimes et des crimes de la Shoah. Ils médiatisent la transmission du traumatisme par l'art et dans la vie quotidienne et rappellent la violente césure dans l'histoire de la ville et de l'humanité. L'aspect performatif de cette mémoire visualisée intervient lorsque, reprenant le nom allemand de ces pavés, la visiteuse narratrice traduit l'effet d'interpellation que produisent sur elle ces deux pierres de mémoire, étrangement dotées d'un regard par les noms phares et familiaux de ceux qu'elles évoquent. Voilà, un de Stolperstein me défie avec leurs yeux de bronze qui ne se ferment jamais. Hein, voilà, il faut les voir. Là, je les ai trouvés sur Internet. Donc, c'est un petit peu différent de l'image qu'on a dans le texte. Mais là, vous voyez bien un petit peu la luminosité, ces yeux qui ne se ferment, ces yeux de bronze qui ne se ferment jamais. C'est une expérience mémorielle, sensorielle, doublée d'un malaise que la visiteuse ressent ici par la médiation de ces deux pavés où les noms des victimes se métamorphosent à ses yeux, en ses yeux de bronze qui ne se ferment jamais, peut-être comme ceux des anges ou de Dieu dans la Bible, ou bien ceux de l'automate Olympia, de l'homme au sable d'Hoffmann. La butée de la promenade sur les pavés intervient dans une longue section de la partie mitoyenne du texte, je n'imagine pas, sur le voyage à Osnabrück de la narratrice en fille d'Ève, son passage par les lieux de l'histoire glorieuse de la ville, lézardée par l'évocation de l'arianisation et de la nazification, et les trois grandes dates de 33, 35 et 38, dont les faits et incidents, les lois antisémites, les manifestations antisémites, la destruction de la synagogue lors de la nuit de cristal, martèlent les étapes menant vers le génocide. La poétique des fragments et du montage temporel, la mosaïque du récit étoilé, brisé en puzzle et en scénette, transcrivent un parcours chronotope, emmêlé, labyrinthique, sans fil d'Ariane. Comme le dit mon fils au début du livre, le cheminement n'a pas lieu que dans l'espace, il a lieu dans l'histoire. La section dans laquelle les pavés en hommage du couple Jonas surprennent la visiteuse commence par la question imprimée à grosse capitale italique « Mais que suis-je venu faire ici ?» Les incertitudes de la voyageuse, ses hésitations à signer le livre d'or grandiose, écrasant, menteur de la ville montrent son désarroi, redoublé par le reproche de ses parents reparaissants. Ève, Eri, Omi, Oncle André, les Ingers me jettent des regards équivoques. Qu'est-ce qu'on vient faire ici, nous ? Cependant, au cours de la visite et dans sa transcription, et peut-être la seule fois dans le texte, le parcours urbain devient plus précis. C'est le moment où la visiteuse découvre un secret de famille de ses propres yeux, après le regard de défiance que lui jettent les pavés. La référence à Balzac se déplace du mélancolique mort-vivant, le colonel Chabert, dans le texte on a ce beau passage, avant de prendre le taxi pour aller à la maison d'Andreas Jonas, je vais rendre visite au fantôme totalement abandonné d'un misérable personnage qui ressemble à la loque sans désir et sans défense du colonel Chabert, le posthume vivant, dis-je. Et on passe ensuite, quelque chose de tout à fait nouveau, aux intuitions sociologiques de l'univers de la comédie humaine sur la distinction, hein, au sens de Bourdieu, sa relation à la ségrégation spatiale et à la cohésion du groupe ethnique et social. L'imposante maison du 25 Friedrichstrasse, sise dans le quartier chic, je l'ai aussi trouvée sur Internet, on trouve tout sur Internet maintenant, comme nous dit bien, il y a un trop d'informations, hein. Et c'est une maison qui a survécu au bombardement de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est quand même étonnant. Donc, sise dans le quartier chic de Westerberg, corrige le silence familial sur le statut de riche d'Oncle André, qui se trouvera prise au piège dans le quartier des Nantis. Il s'agit là de l'une des vérités non dites que devine la visiteuse, qui prend alors conscience de la tendre et amorale protection du secret qu'exerça sa grand-mère maternelle, laquelle semble bien porter son surnom d'Omi. La narratrice y revient dans sa troisième partie, hein, elle le dit bien, en tant que poète, j'ai lu dans les rues et sur les trottoirs ce que ma mère et Omi ne pouvaient pas me dire avec leur propre bouche, la littérature qui est ma famille autre et mon peuple autre oppose ses droits. Donc une deuxième partie que je coupe beaucoup ici, hein, je me souviens, parler un tout petit peu de post-mémoire et surtout de points de mémoire. Évidemment, on voit bien, bon, Hélène Cixous fait partie de la génération 1,5, comme nous le montrent aussi les relais de parole dont bénéficie l'homère maternelle, ainsi que les souvenirs de mémoire que rapporte la narratrice. Je me rappelle ces incidents par la mémoire de ma mère, comme si c'était hier, avoue-t-elle dès le début. Cette mémoire de seconde main engendre des souvenirs transmis de manière affective et continue, offrant une source intarissable de récits et d'énigmes, dont les nombreuses versions du voyage en Palestine d'Oncle André. Et on a toutes ces versions que j'ai reconstituées depuis une trentaine d'années. Chacune est un original. J'y travaille à l'aide des souvenirs emmêlés par ma mère, auxquels j'ajoute toutes sortes d'oublis, ainsi que les intéressants silences d'Omi. Éclose dans la famille comme scène et lieu de la transmission ou inversement de la censure et du secret, cette post-mémoire se nourrit de citations et de suppléments, dans le sens d'Héridien, oscillant entre continuité et rupture. Le substantif Erinnerung, à savoir... Voilà, le substantif Erinnerung, à savoir souvenir en allemand, fait ainsi l'objet du deuxième dessin en pleine page de Pierre Alechinski. Je regrette évidemment de ne pas avoir le temps d'en commenter le tracé et les trois tâches, mais seulement la disposition au verso de la page 36, dans laquelle sont comptés les souvenirs de deux épisodes antisémites, et qui précèdent évidemment, qui sont déjà dans les années 20. Hein. On note le brouillage des énonciations dans ces souvenirs de mémoire comptés à la première personne. « Je me souviens », dit la narratrice. L'évocation d'un racisme abject, de souvenirs blessants, est suivie par un geste au présent de réparation de l'outrage. C'est le monument de papier blanc que dresse la narratrice à la mémoire de Fräulein von Lennecke, oublié et tiré de l'oubli. Je vais considérer également l'exemple du premier substantif, et je m'arrêterai là, travailler un peu sur ce terme de cristal. C'est le premier substantif dessiné par Alechinski en frontispice, en vis-à-vis de la page de titre et en pleine page. Je ne sais pas si je l'ai, oui, je l'ai. Il s'agit donc du terme de cristal qui appelle trois référents arrimant l'œuvre à l'histoire, à la mémoire enfantine et à l'oubli, pour finalement signaler la nouvelle direction du voyage intérieur et spatial de la visiteuse sur les traces de la dernière survivante d'Osnabrück installée à Jérusalem, Marga. La nuit de cristal, du 9 au 10 novembre 1938, qui vit la destruction de la synagogue d'Osnabrück et des commerces juifs, constitue l'un des points forts du texte, repris en boucle. C'est un épisode reparaissant, comme il y a des personnages reparaissants chez Balzac. C'est vraiment ce qui revient dans tout le texte. Mais la petite fille, évidemment, qui est Hélène, n'en a rien su plus tard. Bon, elle a à peine un an en 1938. Omi, peut-être un artiste de la dissociation, as-tu la vérité et le traumatisme ? Mais la voix énonciative transforme des objets reliques d'Osnabrück, les verres en cristal de Bohême, en contenant écrans cryptant le refoulement de la violence et de la blessure. Et c'est ce magnifique passage, hein, je le coupe évidemment. Elle n'a parlé à personne de la Kristallnacht. Le mot de cristal est arrivé à Oran pour désigner les vers de Bohème. Ils sont pleins, il faudrait lire tout le passage qui est absolument merveilleux, ils sont pleins de silence. Personne n'a jamais osé avoir poussé la curiosité d'entamer le silence venu d'Osnabrück. La narratrice, comme ses lecteurs et lectrices, reçoivent ici la place d'Édipe, ce personnage curieux de secrets et d'énigmes devant le mot symptôme de cristal et les objets écrans qu'il désigne. L'histoire, les documents archivés sur la nuit de cristal à Osnabrück, pallient le vide laissé par Omi, un petit peu la censure, dans l'expression du traumatisme collectif, familial et de la césure. La coïncidence de la naissance du premier fils d'Ève à Oran, dans la même nuit, marquée par la déclaration tardive de l'enfant à l'état civil, constitue aussi une énigme pour la narratrice dont le signifié perdu pointe la violence irréparable de cette nuit de novembre 1938. Après cette même section, l'épisode de la dégustation de la boule de glace au café Marignan, longue réminiscence heureuse, profondément sensuelle et souvenir inoubliable et de première main, hein, peut-être l'un des seuls ici, hein, s'écrit longuement en montage avec l'évocation qui resta à l'époque secrète de l'anéantissement des frères et sœurs d'Omi dans la poussière d'Auschwitz et de Térésine, camp situé justement en Bohême. Pour conclure brièvement, je dirais que le parcours d'écriture-lecture dans Garde d'Osnabrück à Jérusalem se fonde sur une poétique éthique qui incorpore le matériau historique, rôde autour de l'interdit, du tabou, du non-dit, hein, tous ces signaux du secret, construit son œuvre sur les souvenirs de mémoire, les souvenirs fantasmes et la post-mémoire, mais il s'agit aussi, peut-être en signant le livre d'or, de faire une œuvre de paix et de penser justement à l'oubli, au pardon, à l'impardonnable, et donc d'interroger à la fois la douleur, mais aussi la possible résurrection. Merci.
Oui, merci beaucoup pour cette communication qui, je pense, ne manquera pas d'évoquer toutes sortes de résonances avec ce qui a été entendu ce matin. Je pense que tu as réussi à très bien filer et déplier cette expression qu'on a déjà entendue, en effet, de mémoire torsadée, puisque tu en as nourri le commentaire avec des images et des principes d'archives, de citations, etc. Alors, on va rester dans l'étrange et dans la différence et dans l'animal avec la troisième communication. C'est celle de Yael Klaus-Wissen qui nous vient de Nouvelle-Zélande. C'est certainement vous qui venez du plus loin. Vous êtes lectrice à la Late Law Graduate School in Auckland et vous êtes spécialiste de questions de littérature biblique. Vous avez fait un livre sur Hélène Cixous, s'appelé Jouissance, Cixousian Encounter with the Song of Songs. Et en fait, vous avez largement et généreusement publié sur l'interaction entre Cixous et la Bible. Et c'est encore de cela que vous allez nous parler, puisque vous allez nous parler de poétique, du bestiaire poétique d'Hélène Cixous, ou comment Cixous reads another Bible. C'est à vous.
So firstly from the Torah, and these you shall abominate of the birds, they shall not be eaten, they are an abomination, the eagle and the vulture and the black vulture, and the kite and the buzzard according to its kind, and the ostrich and the night hawk and the seagull, and the hawk according to its kind, and the horned owl and the cormorant, and the puff owl and the hoot owl and the pelican and the fishhawk and the stork and the heron according to its kind, and the hoopoe, and the bat, every winged swarming thing that goes on all fours is an abomination to you. It is unclean. And now from the Midrash of Rabbi Clarice. I was feeling unclean, immundo, as the Bible speaks of the unclean. Why was the Bible so concerned with the unclean and made a list of unclean and forbidden animals? Why? If those animals, just like the rest, had been created too, And why was the unclean forbidden? I had committed the forbidden act of touching the unclean. Immonde, 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 immonde. My English drenched brain doesn't take this in. Immonde, immonde. Impure, unclean, dirty, but this still does not have the same effect on me. I had a notion that I might understand this better in the language of my prayers. In the language of my prayers, Shema, the moment on sleeping, Shema, the moment on waking when my soul is returned to me, Shema, the moment before my death. In Hebrew, imond is tamei, tamei, tamei. Where have I heard that before? Tamei, tamei. That also comes from Leviticus, Leviticus 13. It's the cry of the leper. I hear its plaintive cry in a desert place, in the desert yeshiva, the yeshiva that is outside. I travel with a company of lepers. I admit it and I accept it. Women readers of the Hebrew Bible, Jewish women who will never, ever pray. Brokata, Adonai Eloheinu, Melech Haolam, Shelo Asani Isha. Blessed be Hashem who has not made me a woman. I want my soul to be mature, to be fully formed. My favorite rabbi, Clarice. I want my soul to be mature, and I seek to read as tame, tame, to look beyond the black fire of the scroll and into the white fire, and maybe find my way through its thick incense, the smoky fires of the burnt offering. I had hoped to find a way of reading the biblical animal, the wild thing of Leviticus, with assistance from Rabbi Elen, a way of reading that enters the tame, tame, the amond. This text, I admit it's a he Bible, but in the shadows, the other Bible is there. I want it to be there. I swear it is. White fire on black fire, raven locks of hair, shadow fire, gray fire. The root is there too, I believe it. If I read closely and not too closely at the same time, if I read impurely like a leper. Of course, I wrestle like Jacob with the uncle narrator who reserves the divine right to name and exile the biblical animal. But I yearn to have that soul already formed, and so I read, by the hand of two great rabbis, Rabbi Elen and Rabbi Clarice, who write my unfinished Talmud. And it is thus I read this scroll as if I come face to face with a black, black roach, the biblical text, Leviticus. And I confess that I may have caught this text in a wardrobe door. I want to read it as if it was a silent meeting between myself and this roach in the first garden. I want to try to be at silence. There in the silence, a beautiful shadow Bible exists, I pray. But if I but follow this other reading, when I am not too busy raging at it, and my very life's work hinges upon finding an escape route through its borders, checkpoints, and no man's lands. A dire text, an unjust text, a cruel text, a brutal text. It's easy to rage. But in the silence, perhaps there could be a return. To recover again the things of its lost childhood, to find the manna scattered through the text. In the same breath that this text forbids the root, perhaps it also offers it. A way to return, perhaps in exile, perhaps in shadow, but behind the forbidding lines, I believe there are escape routes. Thus, in Rabbi Elen's Talmud, she renounces it. The purpose of those Bible is to forbid the root, but then she also forgives it. Though perhaps in other scrolls, hidden scrolls, she says, the most beautiful things in the world they are, infinite and works of all works. There are songs of songs. There are books of Job, full of manna, honey and milk. It all overflows there. But Leviticus, it's like a roach in a door, half squashed. I am determined to look it in the eye. From Rabbi Sisu and her unfinished Talmud. Let those birds be abominable, she says. I associate women in writing with this abomination. It is my way of indicating the reserved, secluded, or excluded path or place where you meet those beings I think are worth knowing while we are alive. Those who belong to the birds and their kind, these may include some men, to writings and their kind, they are all to be found, and fair, a fair company it is outside. in a place that is called by those Bible, those who are the Bible, abominable. Tame. Tame. I swear there are beautiful abysses in the scroll, escape routes, grottos, labyrinths. If I but allow my soul to be unclothed, to be dirtied in a lecture immonde. Tame. Tame. If I was to be given wholeheartedly into the hell of the biblical text, Leviticus, to embrace its genèse and clarisses, to enter its domains in ferrieure, I imagine at this moment Leviticus might swarm like a sea of bats drawn from Dante's imaginary paradise, behind the first and the proper Bible, a supra-Bible, where all Leviticus's abominable birds soar, and as in Dante's Paradiso, forming letters in the sky. Amongst my fellows in biblical exegesis and the uncle rabbis, I might find myself sectioned to no man's land, on the edge of the proper of thought and the proper of language, the proper Talmud, somewhere between the white fire and the black. But I am willing to enter this border country. I've been told it is a burning bush and a sweet, sweet fire, a holy sanctuary for all things impure. And in this desert yeshiva, the yeshiva of the outside, where the unfinished Talmud is still being written, it is said that the rule of the word because does not have to be obeyed in the exercise of another reading. I want to enter into Rabbi Clarice's transgressive, barata-loving amundity. In this reading, I would journey to the biblical animals to see it face to face, stripped down, unlacing all those proverbs. In this reading, I would melt the 613 mitzvot, who to evade, who to avoid, who to touch or not to touch, and perchance to find myself in the embrace of the amond, joyously and without reserve. I dream of these travels elsewhere in the scroll, to enter the universe of others somewhere beyond the back door of thought. Guided by my fully formed soul gifted by Clarice, if I can but suffer through the pain, the exile and the rage, a difficult joy, says Rabbi Elaine. It is the truth that I am unsure. If I am noble enough for such impure sufferings on behalf of impurity, on behalf of biblical creatures, I try. I eat the scroll because I've had enough of being bereft, the victim of theft, a scapegoat, forced to cry, Tame, Tame, in the wilderness. I require only the courage to give myself in my passionate and violent struggles with the text. In spite of all its threats, I hear its call, Vayikra, that of the other Bible, the Amond, Tame, Tame. It wants my skin to debride me of it. It whispers madness. From Rabbi Clarice's unfinished Talmud, the neutral was whispering, she said. I was reaching what I had sought all my life, whatever is the most final identity in that I had called inexpressive. That was what had always been in my eyes, in the snapshot, an inexpressive joy, a pleasure that does not know that it is pleasure, a pleasure too delicate for my coarse humanity, that had always been made of coarse concepts. The mond of Leviticus signifies that which the uncle rabbis have declared clean, pure, proper, and legitimate, but the immond, the tame, signifies the dangerous other that the rabbis warn me about, the unclean, the impure, the improper, the illegitimate. The border between these two, like Genet's barbed wire and secret fields, is a purvey of the law. On the inside is humanity, and on the outside, swans, storks, and griffins, alongside a teeming host of forbidden others, lepers, menstruating women, all the mum's ream, and the poets, and all the others. Joy, claims Rabbi Elaine in her desert Talmud, is immond. Joy is immond. That is, out of this world and in exile. It is an outside that the world might declare unclean or abominable. So while there is a force at work in Leviticus to forbid the root, there is also a force that works to embrace it and to liberate it. I see it burst in the mystifying and exalting Song of Songs. I always run to this text. In the night watches, when the uncle rabbis were judging it, I dreamed that Rabbi Akiba had met the roach scroll face to face. The Talmud tells us of his great fight to preserve it and let it live, this holiest of writings, and the most immond book of the Bible, so impure, so joyous, the Song of Songs. Akiba claimed the Song of Songs was so pure it made hands unclean, which is in this discourse a poignant play of words. The song is a text of joy made of all kinds of crossings, and it has never forbade a horse or a bird or a poet or a woman. They all live in its garden, a book of fire in a burning bush, a book of love. And the holiest moment in the unfinished Talmud is this, a still small voice. C'est un livre d'amour, c'est un buisson de feu, mais je vous si j'étais. Une fois dans le feu, on est inondé de douceur. J'y suis, je vous le jure. The Song of Songs is a paradiso where all kinds of gifts are imminent. The joy of the Song of Songs paints itself with all the signs of a veritable animal parade. And so while Leviticus takes part in forbidding joy, relegating it as immonde and abyssal and dark country, such as that, the monstrous text of Leviticus 11, we also find volcanic texts where the Bible's escaping or exiled joy is an inferno, wherein joy burns like a red giant, like a star, like Dante's vision of paradise. In my own readings of Leviticus, I vow to keep entering these incendiary caverns, the brutal, the wretched, the pure and the impure. I must scour this womb. The very roots of life itself could be there, eating all these scrolls like fruits on the tree again and again, the bitter, the sweet and the poisonous. This shadow Bible is its other face. The oppressive He Bible notwithstanding, that legislates the eating of this and the forbidding of that, and the inscription of the category on monde, on both birds and women, banishing and censoring. This other Bible challenges the proper and its charges against poets and prophets. And I imagine that Rachel weeps for them, those who travel in the company of lepers, that her tears soak the scrolls every Shabbat, and if in the same way women and animals are abominable, these biblical textual spaces in the shadow Bible open up and give generously. They appear as burning bushes in the wilderness and as multiple gateways to trees of life, texts that shout, eat lovers and drink, drink deeply of love. Elaine finds a way into the other Bible. This might surprise the uncle rabbis, all of them, perhaps except Akiva, who was so purely impure he saw the face of God. I imagine that moment when Akiva saw God. Perhaps it was a meeting of two roaches with their feelers out touching each other. I will read a discourse from the unfinished Talmud. Firstly, from Rabbi Clarice. And she said, I am now going to tell you how I entered the inexpressive. That was always my blind and secret search. How I entered whatever exists between the number one and the number two. And how I saw the line of mystery and fire, which is a surreptitious line. A note exists between two notes of music. Between two facts exists a fact. Between two grains of sand, no matter how close together, there exists in an interval of space. A sense that exists between senses. In the interstices of primordial matter is the line of mystery and fire that is the breathing of the world, and the continual breathing of the world is what we hear and call silence. And then in response, Rabbi Elaine said, we are the place of structural unfaithfulness. To write, we must be faithful to this unfaithfulness, entre deux. To designate a true in-between, between a life which is ending and a life which is beginning, these are the innumerable moments that touch us with bereavements of all sorts. On the other hand, what I work on does not take place in violent interruption, which opens up, and instead there is a soft, strange material. In the passage from one to the other, de l'une à l'autre, a de-hierarchizing. The entre deux is the way into the other Bible, the other Leviticus, I pray. In the case of Leviticus, it would mean for a radical engagement of the present of the text, resulting in a kind of life-writing, life-reading. All sorts of barriers crossed and simultaneously at multiple levels, creating a transgressive pastiche of jouissance and revenge. The reading is one of bracken, algae, marshes, a reading of bogs and wildflowers, and a moist desert where Rabbi Clarice wanders with staff in hand, and for Dante, a raucous kaleidoscope of birds in flight. In this reading, all sorts of beings would be released, all kinds of forest birds and sea birds and mountain birds. Not only this, but all kinds of sea creatures and all kinds of insects and crawling things. All it takes is the nude refusal of the law of the uncle rabbis to be faithful to unfaithfulness. to grieve. This is the other Bible that Elaine creates for me in her readings, in a Bible that oft seems set on punitively separating the un from l'autre. Sixu asks me to make the readerly journey into the no man's land between the two. In this liminal space, a space where I must try to be faithful to unfaithfulness, to read faithfully with rage, with difficult joy and in full commitment to life and to metamorphosis. I swear I will try to go into this exile, this country of the other, to find those escaped birds and flying creatures, to encounter the textual immonde, to read a shadow text there where all kinds of winged creatures exist in joy. Like Jean Genet, a kind of winged poet or sphinx, read in this transgressive space of faithful unfaithfulness with pitiless and exquisite attention to life and to love. Because I love the text, like Genet loves Stilitano. Leviticus is my Stilitano, Levitano, Stiliticus. I fear the metamorphoses this reading requires because Leviticus has me like a bird of prey has a turtle dove, with razor talons piercing my sides. I fear the reading will leave me broken, a victim to unrequited love. I imagine, potentially, I could be the kind of being in which the soul of the noble reader lives, given in a difficult love to Leviticus, a chimera. As chimera, I could find myself as a betwixt and between creature, a poet, a natural inhabitant of the entre deux. I so want to go there, to set up a home there, to plant a garden, but it is a need that I must resist in order to end up bare and exfoliated, sloughed off like snakeskin, entering once the habitat of the biblical animal. A journey that requires the giving up of everything. To be fully formed, I want to do it, to see God there, to touch his eyes with my lips, to throw myself into the sweet fire to fly, a chimera, and one roach among many. I want to try to behold the strange world of wild things with exquisite lightness. I take heart from the chimera Dante, who paints an uncountry that is so joyously free. I want to also, on behalf of all formerly abominable animals, birds that are now flying in the air and forming letters, shadow and light, in sound and in silence, on behalf of all holy creatures, I pray, full of joy.
Alors, merci d'avoir justement construit un commentaire qui essaie de penser ce va-et-vient entre ces possibilités d'échange entre le Talmud et le Cantique des Cantiques, principalement, puisque vous l'avez suivi dans différents textes d'Hélène Sixou, où elle fait grand usage de la notion d'immonde. C'est parti de là et de ce fameux tamé en hébreu. Alors, je vais, sans attendre, puisqu'on part du principe qu'on entend les quatre communications, comme dans les autres sessions, céder la parole à Arosh Aminyan Tabrizi. Alors, il est passé par Bruxelles, il est passé par Oxford, et le voici maintenant en doctorat à NYU. Ses recherches l'ont principalement mené à s'intéresser à la pensée française contemporaine, aux récits autobiographiques et aux études de genre. Le titre était énigmatique et joli en français, et c'était « 2 plus N ou nous », mais en réalité, la communication va être en anglais. C'est bien ça.
En français.
Enfin,
bilingue.
Bilingue, voilà. À vous.
Voilà, donc je voudrais remercier les organisateurs et les organisatrices de m'avoir permis de venir ici. Et évidemment, c'est un honneur de parler en face de vous. Merci, vous m'entendez
oui,
donc voici.
Oui.
S'il vous plaît. Ah oui.
Do you remember when, where, and how? I told you to get hold of the book. That part I remember. You said I said reading the first chapter had brought me to tears. I can't recall. I just had these traces, the writing, the scriptures of those bodies intermingled, interlaced, dismembered, and insected, dancing as if entranced across the texture of an open, closed sext. I just felt that that was it, love itself, sectionally, sequentially. I called you and asked you to get hold of the book. Thou shalt, I shall. I said, everything's there, save the name or forename or surname or nickname, save the noun, only just maybe potentially pronouns. And I promise, I can feel it. Or am I dreaming? I promise to you and I, for us, that we had to make love with the scene that remains, with, thus within and without, you, we, and I, and the eyes, and he, and she, and them, and in secret, I ask from you and I to trace, withdraw and relaunch, that is, translate, transcribe, we, that is, you and I in a process in which they would be writing themselves, writing each other another scene, a scene otherwise, that of love making, of love sharing, of love dancing. Who? What? How? Traduit, rêve, disent-elles. Là où ici, il y a la scène qui reste, celle qui ouvre l'amour même dans la boîte aux lettres. Mais cette scène, dès l'abord ou le débord du texte, elle se trouverait d'avance dédoublée. Il y aurait en effet d'une part l'événement d'un faire l'amour inaugural et d'autre part la remémoration par deux témoins anonymes de l'événement de cette passion. À l'évidence, votre d'une part, d'autre part, restreint dans sa fausse clarté ou limpidité de sa syntaxe, logique, ordonnée et binaire, la complexité de ce qui s'est dit. Parce que cette scène qui reste n'en vient en fait à se figurer que par le biais du ou des témoignages remémorants que se font, que font les protagonistes. Elle vient, elle arrive par le ressouvenir, l'écriture de son événement oublié, anamnèse d'une amnésie, revenir du non-revenir, la crypte, le secret de la passion. Lis, ils le disent. Ce n'est que tout à coup, une fois que « je » s'est laissé apostropher par « tu », qu'ils se regardent tomber, se jeter l'un sur l'autre, s'ébattre, et qu'ils se mettent alors à raconter, à se raconter, à élever, à s'ériger. La scène de « avant » advient devant eux. La scène d'aventure s'avance. Le passé ne se laisserait donc dire que par le tissage des voix, leur témoignage, après coup. Passé qui ne passe ou ne repasse que porté au-delà de lui-même, à sa suite, nachgetragen. Autrement dit, le présent ne serait que le revenir du passé, se laissant passer pour s'étendre vers ou depuis l'avenir. La mémoire dans le dire de son oubli se supplémente, s'enrichit et renchérit. Mémoire d'ores et déjà amnésique et hypermnésique. Elle ressurgit ou ressuscite, elle survit. Vie dans la mort, mort dans la vie, mort dans la mort, vie dans la vie. P-L-U-S-D-E, vie. P-L-U-S-D-E, mort. P-L-U-S-D-E, mémoire. Voici peut-être quelques-uns des axiomes indécidables du témoignage. Aussi sec, la revenance. Aussi, ajouterais-je, les temps, les plis du raconté, maintenant, aujourd'hui, alors, présent, passé, composé, imparfait, se multiplient-ils ? Ils s'enlacent, ils s'enchevêtrent, se distinguant sans distinction à une cadence ou à un rythme qui en deviendrait folle ou fou. Impossibilité donc de départager en toute sécurité le passé et le présent, le d'une part d'autre part, le part et d'autre, et les qui ou les quoi qui les énoncent et s'y laissent s'annoncer. La scène qui reste ne prend ainsi corps ou ne donne corps qu'au travers d'un dire, d'une anamnèse amnésique hypermnésique, partagée entre les deux témoins. Deux témoins qui auront témoigné par le ressouvenir d'eux-mêmes, se faisant ou faisant la scène ou l'amour, comme à des autres, comme autres. Or, il y a aussi la scène du texte lui-même, son écriture, qui à son tour donne à lire et à écrire. Il te l'a dit, la scène en son reste renchérit toujours déjà. Mise en abîme, aux deux témoins devenus au moins quatre, eux aussi se multiplient, elle compliquera plus tard, s'ajoutent celles et ceux, toi, moi, qui lisent, écrivent, eux-mêmes et elles-mêmes témoignant alors du témoignage des témoins témoignant d'eux-mêmes. Après tout, ou après coup, c'est la scène qui reste. La scène tombe ici en se tenant là debout, encore et encore, dans l'antre, entendrez-le comme vous voulez, ou l'antre, des témoignages. Elle reste, elle insiste, persiste, résiste, existe, en s'altérant. Cette scène n'en finit pas de finir, n'en finit pas de recommencer, c'est-à-dire de se spectraliser. Elle se dit, se raconte, s'écrit, se rêve et se fantasme. Du reste, elle s'existe. Le soi hors de soi s'expose à lui-même. On se passionnerait là ou ici de ce que l'on nommerait la sexistence, et peut-être de l'une de ses premières lois, il faut exister son soi comme un autre, soi sans soi. Il y a donc avance de la scène qui reste et ses deux plus haines témoins. Deux plus haines ? Eux ? Nous ? Qui ? Quoi ? Reprenons. La scène sécrète son secret dans le tissage des voix des deux témoins. Ils regardent leur avance par le biais des témoignages pissés de leur passion, témoignages qu'ils se font, qu'ils se disent, qu'ils se trament. Mais déjà ici et là, les deux au moins se dédoublent. Deux devient au moins quatre, tout en s'unissant de part et d'autre et au-delà, comme des nous dont la communauté supposée demeure en vérité inavouable ou désœuvrée, puisque toujours déjà relevant d'une gageure presque impossible. Il ne peut y avoir que promesses et témoignages, coupure sans coupure, possibilité de l'impossibilité. Oui, oui, mais tu as dit qu'il y avait aussi nos témoignages à nous. Enfin, j'entends de celles et ceux qui, ici ou là, témoignent du témoignage de témoignage de... Enfin, tu as compris. Là où ici, il y a déjà du 2 plus N, n'est-ce pas ? Laisse-moi continuer, veux-tu ? Il y a donc ces voix qui disent, qui témoignent, qui s'écrivent à partir de, dans, par, avec, au-delà de cette scène. Cependant, qui parle au juste ? Qui s'existe en s'écrivant ou en écrivant ? Nous ? Les noms, nous les avons tout de suite laissés dehors, dit-elle, disant je. C'est donc une affaire de pronom sans nom, ou l'affaire du tout sauf le nom dont il s'agit, de tu, je et nous, et d'autres encore. Le préfixe pro, je vous le rappelle, que l'on trouve en tête du mot pronom, peut recouvrir en latin différents sens. Entre autres choses, devant ou à l'avant de, avant ou en avance, au lieu de et ou à la place de. Entre autres choses. Si l'on suit les dictionnaires, à l'évidence, le pronom est un mot qui fait représentation. Il se tient à la place ou au lieu d'un autre. Néanmoins, l'on pourrait étendre la définition de ce mot de façon peut-être inouïe et dire que le pro informerait ou rappellerait ici ou là l'espace et le temps d'une avance, ainsi que la substitution et son procès, donc les séries, les spectres, les fantômes, c'est-à-dire la hantise. Le pronom serait ce qui toujours déjà court le risque de rendre indécidable, de marquer sans marquer, au regard de son avance spectrale. À suivre les témoignages de la scène qui reste, il s'agirait, on s'en passionnerait, de cette marque sans marque. La pronominalisation foule les pistes ou en inaugure les traces. Certes, je te l'accorde, il y a les accords, et le féminin se remarque tout au long du texte. L'accord en français laissant surgir la différence sexuelle aux première et deuxième personnes, quand et où l'on ne dit pas elle ou elle. Yet, when and... Where I started rewriting the text in the English translation, it didn't come to me for starters that D.I. was for sure a she. Oui, oui, néanmoins, parfois, même rarement, je ne dirais pas toujours, loin de là, les phrases se disent et se tissent d'une telle façon qu'ici ou là, même le français ne laisserait aucune marque. Par exemple, quand et où l'on s'écrit au temps simple, présent imparfait, ou composé, avec l'auxiliaire avoir non précédé d'un complément d'objet direct, et que l'on évite les verbes copules avec attributs, etc., etc. Et puis, il y a aussi ces moments où l'écriture pronominalise de façon si folle, puisqu'on ne sait plus ce que le pronom remplace, que le sens de l'écriture se disperse en tous sens. Les phrases s'étendent, se resserrant comme annelées ou structurées à chaque « je »,« tu »,« nous »,« il »,« elle »,« on », »,« ça ». Chacun de ces pronoms ouvrant alors une possibilité de lecture toujours déjà autre dans l'épreuve de l'impossibilité du décider. On suit, on poursuit. Qui ou quoi est qui et quoi et quand et où ? Chaque décision inaugurerait une lecture-réécriture différente. Voyez-vous-même. Et ce n'est pas la bonne citation. Ah, bon, bah, tant pis. Ah, voilà. Les pronoms dansent, comme les possessifs qui s'y rapporteraient. Entre mille et une choses, qui est-elle ? La scène ou la je ? Mais qui ai-je ? Et qui suis-je ? Présent, passé, pas passé, à venir, les places s'échangent, se multiplient, se supplémentent. Chaque configuration réagence ou en passionne encore et encore, là où en fait les différences sexuelles. Moi, si tu me permets de t'interrompre, c'est toute autre chose qui m'aura attiré depuis toujours. Ou est-ce vraiment ? Ce sont les doubles ou multiples résonances de « tu » et de « je », À l'évidence, il y a là ou ici aussi différence sexuelle. Je dis, parle, raconte, met l'histoire en branle par l'arrivée du dire de tu, proche étranger, et ou de son revenir. Sans tu, pas de je, pour relater le souvenir de la scène qui reste. Et pourtant, il n'y a rien de plus singulier qu'un je, et rien de plus impossible. Ce je ou ces je, qui ou quoi pourrait dire qu'il n'y en a ici ou là qu'un et un seul, ne peut ou ne peuvent s'écrire ou s'exister que par la venue de l'autre, de ou des tu, une fois encore, tu est-il un ? Je absolument seul ne s'existerait pas, n'existerait pas tout court. Il y aurait deux rechefs de l'autre, déjà soi-même comme autre soi, corps, etc. De l'autre qui se donne sans se donner, en parlant, en répondant, en volant. Ici et là, tu adviens en tant que figure ou corps infigurable. Relation sans relation, voilà donc comment je s'annoncerait en devenir, en advenir, à partir de, vers ou depuis l'adresse de l'autre, et donc de tu qui vient, dit et répond. Secret qui sécrète pour toujours déjà se regarder. En effet, et cela va dans ton sens, ce qui m'a frappé, c'est la langue gourmande et langoureuse du manger qui traverse le texte. On tète, on suce, on avale, on mord. C'est comme si on voulait manger l'autre, mais tout en le gardant intact, intouché, indemne. Tu, c'est l'autre que l'on mange, qu'on ingurgite et qu'on l'on boit sans le digérer, parce qu'il s'offre à je, mais que je se doit de le garder dans son altérité, dans son étole de tu, pour qu'il ou elle demeure tu, et peut-être pour l'aimer. En outre, je, dans le texte, joue et fait voir dans l'écriture, manger, ce serait manger. Donc manger sans apostrophe, cela pourrait s'entendre avec l'apostrophe, comme une annonce de soi ou de moi, comme un envoi de je. Angelo en grec veut bien dire annoncer, d'angelos le messager. Donc, d'une annonce de soi ou de moi, ou comme un envoi de je, vertu. N'est-ce pas ce que je fais, ou quand elle veut avaler le sperme, ou en grec les graines de tu, tout en le gardant hors de soi, et que tu, lui, s'inquiète ou s'attriste du grain de la peau oubliée, émission, traits qui se perdent, s'oublier se garde, se trace en se retraçant, ses graines se disséminent. Tout ça, c'est encore la scène qui reste, la mémoire et les témoignages, leur raconter, leur écrire, leur s'exister. En somme, il faut donc manger, puisque sans cela, pas de je. Mais pour manger et désirer, il faut se laisser apostropher, laisser venir ou revenir. Et pour ce qui en irait de l'amour, avale sans avaler. Mange, mange, je t'aime, mange, tant, change, ne range pas, mange, je t'aime, mange, mange. Ils, elles, ont ça, ce serait tout au contraire l'autre en tant qu'autre, l'extériorité, le dehors, peut-être même la chosité, mais qui ne s'adresse pas encore à je, le secret du secret, sans sécrétion. Ces pronoms de la troisième personne sans relation tout autre, infigurable, ne se figureraient justement qu'au moment ou dans le mouvement de l'apostrophe, quand et où ils se font tu. La troisième personne, est-ce qu'elle s'appellerait Dieu, les puissances autres, Ève ? Je ne peux pas aggraver ici ou là des questions déjà si difficiles. Quoi qu'il en soit, je reprends. La troisième personne, ce serait l'infigurable. On très certainement pourrait l'être, c'est le pronom de pronom, la substitution même, l'impersonnel, peut-être le neutre. Elle, il ou ça, tout dépend. Ces pronoms-là figurent quand même bien quelque chose, ou quelqu'un. Souvent, trop souvent, en tout cas, la troisième personne ou l'indéfini assigne, font comparaître tout en donnant pourtant parfois ses chances à la langue. Ces pronoms disent « toi tu seras la femme, toi l'homme, toi la chose ». Je et tu, quant à eux, anonymes, s'adressent l'un à l'autre. Ils se laissent s'approcher, s'approchent l'un de l'autre, comme des autres, se parlent, se disent, s'écrivent. Elle et il, l'homme et la femme, résonnent au loin ou hantent, mais jamais de façon absolument certaine. C'est le jeu de la différence sexuelle. Je et tu sont autres et témoignent de leur partage, du revenir de leur scène qui reste. Ils se font l'amour, ensemble séparés ou séparés unis. Ils s'existent donc, elle et lui, ou plutôt je et tu. Ils s'existent l'un l'autre, en s'apostrophant, en se laissant apostropher. Leur existence ne peut s'exposer que dans cette relation sans relation de je au tu et de tu comme je au je comme tu. L'existence se figurerait comme réciprocité sans réciprocité ou comme réciprocité passagère des différences des sexes. Voici peut-être une autre loi de la sexistence et de son archisène. Vous scandez, psalmodiez, commentez sans jamais trop en dire. Vous instruisez partiellement l'affaire tout sauf le nom. Vous chantez la pronominalisation et par-dessus le marché, vous jouez de l'ambivalence du pronom « se » dans le verbe « s'exister », comme réfléchi et réciproque, ou l'éternel retour de l'autre et la réciprocité passagère. Serait-ce d'ailleurs, je vous le demande en passant, ici ou là, l'itérativité ou la performativité ? Bref, vous vous citez, récitez, répétez. Mais justement, l'anonymat ne prévaut pas toujours, vous l'oubliez. Il y a des noms propres, prénoms ou patronymes, ou des noms communs, des références à des noms d'auteurs, de personnes réelles ou fictionnelles. Il y a des titres, ces sortes de noms propres étranges, et tous les textes qu'ils ouvrent et portent, ou même des animaux, prénommés ou non, et des choses devenues personnes ou personnages, qui hantent et s'avancent dans la texture du texte, s'y tissent et y trament par jeu d'écho et de substitution. Je ne prendrai qu'un exemple, parce que je l'admets, on pourrait toujours discuter à l'infinitum et ad libidinem de ce texte comme de tout ce qui serait digne de s'appeler littérature. Quid donc de Olivier de Serres ? C'est quand même dans le titre du premier chapitre. Et pas Dieu ? Ils n'y arriveront pas. Ici ou là, ils ne peuvent qu'effleurer. Laissez donc poursuivre et provisoirement finir. Je vais donc éviter la question, tout en vous prenant au pied de la lettre. Je commence, tu continueras. Olivier de Serres, c'est le lieu où advint la scène qui reste, ou plus exactement le nom d'une rue qui, par métonymie, sera devenue le nom du lieu où la scène se passa. Je n'arrive pas à me représenter le lieu, reste le nom, dis-tu. Plus tard, je donnera à le voir, ce lieu. C'est à l'évocation du nom et par suite du lieu oublié que la scène surgit ou revient. Sur cette scène, il tombe et dans le ressouvenir érige son temple, son monument, son tombeau ou sa tombe. Olivier de Serres, une fois que son nom a retenti dans la voix de tu, rappelle ou fait revenir le lieu d'un oubli, sa mort ou la mort, mais aussi, elle le rappelait tout au début, de la mort en latin, c'est-à-dire de l'amour, le mot qu'il n'aura jamais fallu énoncer. Entre nous, jamais de nom, sauf Olivier de Serres. La scène qui reste en revenant dit ça ou la mort, mais aussi l'amour qui s'y est fait. Je devrais parler du désert, de la passion et de Dieu, je sais sans savoir, je ne peux pas. Ce qui importera ici ou là pour l'instant, c'est que se faire l'amour figure donc, tu me le chuchotais à l'oreille tout à l'heure, ce que l'on nomme d'ordinaire un rapport sexuel. La scène qui reste s'expose comme une scène de sexe, ou comme je dis, de la chose qui veut avant le nom, avant tous les noms Olivier de Serres. En tout cas, c'est la lecture et écriture qui ici ou là, je crois, t'intéresse. Il y aurait à l'évidence tant d'autres façons de lire et écrire cette scène. Mais passons. Je prends donc le relais. Merci. Et c'est là ou ici que j'aimerais rapidement, trop rapidement venir, en prenant, je te le concède, bien trop de raccourcis. Je et tu, ici ou là, certes s'existent, existent leur soi sans soi, et s'existent l'un l'autre, s'excitant en se faisant l'amour, depuis l'éternel retour de l'autre et la réciprocité passagère, c'est-à-dire la dévoration. Mais là et ici, ils s'existent aussi. Ce verbe s'exister qui n'existe pas, elle l'aura d'ailleurs lu après coup dans un autre de ses textes. Avec la scène qui reste, nous approchons quelque chose que quelques-uns auront appelé la sexistance, pour informaliser les aventures et les événements des sexes et des sexualités, toujours déjà gardés secrets, racontés et étendus après coup par le biais de témoignages, en faisant revenir la mémoire et en la faisant poindre vers ou depuis l'avenir. La scène qui reste, elle deviendrait pour moi exemplaire, en ce qu'elle aura rêvé, abordé en débordant, figurant sans figuration, l'advenir sexuel, pourrait-on dire économiquement, des voix, de leur dialogue, et donc l'avant spectral de cet advenir dans un compte-rendu diffractif qui répond avec, à et de l'autre, une autre ou un autre s'entend, entendez, et lisez, avant et devant tout nom, tout sauf le nom, tout cela au travers d'une indécidabilité du sens ou des sens, de la marque sans marque, c'est dire, ici ou là, au travers d'une pronominalisation folle, faite entre autres choses d'adresse ou d'apostrophe. Chacun aura dit, à part soi et par le revenir de la passion ou de l'amour, les sexes ou par les sexualités, en nombre potentiellement indénombrable, un deux minimum, dire traduit, transféré, transporté de l'un à l'autre et de l'autre à l'un, qui multiplie les positions, échange les places, marque en remarquant, sans marquer, effectivement en dansant, en transe, à même les corps de phrase, ces deux toujours déjà se seront donc supplémentés d'autres choses, ou peut-être d'autres qui, 2 plus N, tu l'as dit, voilà peut-être la promesse de la sexistance.
Michel, pour entendre un commentaire, pour poser une question.
Non. J'ai pas vraiment de commentaires à faire parce que j'ai plutôt éprouvé du plaisir puisque nous avons eu des interventions très poétiques, très personnelles et complètement hantées de manière sérieux-comique par le signifiant, ce qui me plaît infiniment, bien sûr. Arrache, c'est comme ça qu'on dit ? Orache. Ah. Orache. C'est très beau. Je ne sais pas que faire avec Orache. Hein? Laurent, tu as trouvé. Est-ce que je peux me permettre, sans m'adresser directement aux intervenants que j'ai trouvé magnifiques, de quand même de souligner quelque chose parce que ça m'importe. C'est à propos du mot de traumatisme dont vous n'êtes absolument pas responsable. Mais s'il y a une chose qui, je crois, ne se promène pas dans mes textes, c'est le traumatisme, à moins qu'il s'agisse de signifiant, c'est-à-dire qu'on joue avec le traume qui se promène dans le traumatisme. Alors là, d'accord, pour le reste, non. Et comme ça a une portée politique importante, une portée éthique, je me permets de dire qu'on ne peut pas universaliser le thème traumatisme, ni traumatisme génocidaire, ni quoi que ce soit de ce genre. Il y a énormément de gens qui sont effectivement sollicités par le traumatisme, qui en sont porteurs, qui mènent un combat ou qui le préservent, etc. Mais je crois justement que il se trouve que mes surdéterminations sont telles que ce démon, par ailleurs très, très fertile, hein, et qui est capable de féconder des existences, n'est pas entré dans la mienne. De cela, je cherche à rendre compte sans en faire la théorie dans mes textes. Je pense que ma mère n'a jamais porté cette séquelle ou ces séquelles, et ni ma grand-mère. Et si, lorsque dans certains textes, je travaille sur des ablations, c'est sur les silences, mais les silences. En fait, il n'y a pas un silence, il y en a d'innombrables, et chacun parle et dit autre chose. Voilà. Alors, je me faisais un petit souci, parce que je sais qu'autrement, on va rentrer dans l'inéluctable cliché qui accompagne une quantité de personnes. Non, voilà, justement, ce n'est pas toujours le cas, et c'est ça qui m'importe. Sinon, je ne serais d'ailleurs pas allée, si, avec une telle fougue et une telle curiosité, me frotter à Osnabrück. Non. Mais ça mériterait beaucoup de temps, des discussions. C'est juste une précaution.
Une dernière question, peut-être ?
Je voudrais dire à Marie-Dominique que, quand même, que chaque fois, elle me ravit. J'adore qu'elle s'en aille comme ça dans ses chemins. C'est peu battu et qu'elle bat comme personne. Mais Orache m'a aussi surprise. Et bien sûr, la beauté de ce que fait Yaël et qui n'a peut-être pas été perçue par tout le monde. Où, d'ailleurs, je me suis dit, oh mon Dieu, voilà qu'il m'arrive le pire, c'est d'être rabbinisée.
Je pense qu'il y avait une question derrière.
Bonsoir. Je vais faire la question en anglais. As I listened to the three remaining panelists, I wondered if you would auto-define or self-identify yourselves as Sixousian in your strategies, and not necessarily the woman in the striped shirt who's sitting in the chair in the front row, but the person who wrote the texts. And if each one of you could answer the question, I'd be really curious to hear.
Oh, can I answer in English?
Please.
Of course.
I would say Sixtusian inspiration. I wonder if it's a if Ellen's writings are a place, a platform from which to leap off. I think for me, especially in reading the Song of Songs, you know, looking for somebody to write with, to read with a kinship or with a resonance, a dynamic, something that spoke to me of the Song of Songs, that was important to me. But it was an inspiration to leap off into my own expression, my own kind of reading. So it was the inspiration that was really important. And the midwifery, the guidance of the being with.
C'est une question un peu embarrassante. Il y a plusieurs choses. Je pense que Hélène Sixou m'a fait penser. Elle m'a donné à écrire, donné à penser. Elle m'a donné à penser l'amour. Et ce que j'essaie d'approcher, ce bizarre nom de s'existence que, bizarrement, je lis parti il y a 2 mois, préparer ce texte, je ne sais pas, j'ai commencé à vouloir tout lire. Et je vois le verbe s'exister là, alors que je cherche, moi j'ai cherché sur Google, je n'ai jamais trouvé. Puis je sors un article, là je découvre que Jean-Luc Nancy sort un livre qui s'appelle S'existence aussi. Je me dis, oh, je l'ai volé, je ne l'avais pas volé, donc c'était bien. Voilà, c'est donner à penser. Pour moi, c'est une des littératures... C'est ce qui m'a fait le plus sentir. Je crois que j'ai tellement ri et j'ai pleuré aussi, en fait, avec certaines scènes ou les rêveries de la femme sauvage. Quand on va au cimetière, moi, je ne sais pas, ça m'a pris. Je l'ai envoyé à ma tante arménienne. Je lui ai dit, il faut que tu lises, tu vas voir. Je ne sais pas, il y avait quelque chose comme ça. Et même, rien que son souvenir, l'amour même dans la boîte aux lettres, les premières pages, ça reste, le café liégeois et la Schlagzahn. Tout ça, je ne sais pas, il y a quelque chose de très prégnant qui est resté. Et pourtant, il y a plein de choses que j'oublie. Hein. Je lis, puis je rouvre, je dis, oh oui, c'était là, c'est vrai, j'avais oublié. Mais voilà, en fait, je pense que je ne suis pas sixousien, parce que je n'arrive pas à être... Enfin, je ne sais pas. J'arrive pas, mais peut-être que tant mieux. Peut-être que vous pensez le contraire, j'en sais rien. C'est un de mes piliers qui fait partie de cette. Je ne l'appellerai pas religion, peut-être, mais ce peuple auquel je m'adresse. Voilà.
Merci. Peut-être encore un mot alors, de conclusion pour aujourd'hui, en tout cas, puisqu'il nous reste.
Mais là, je veux la parole quand même. Non, mais ça va être très très rapide. Je pourrais répondre à Yaël, mais on fera ça après si on prend un café. Alors, je ne sais pas trop comment répondre. Je pourrais répondre en anglais ou en français. Six ou chien, six ou chienne, six ou djinn, six ou rien. Il y a 1000 mots qui rentrent dans ce mot-là, et pour moi, c'est une porte parfaite. Sur Internet, on trouve pas tout. Ce qu'on trouve, c'est le Pérou. C'est-à-dire, on perd, on trouve pas. Mais bon, j'arrête.
Universaliser le traumatisme. En même temps, moi, j'ai vu quand on dit à la voyageuse rêveuse cette fille est une traumatisée par fantasme, c'est quand même là. Et bon, c'est évidemment Ève et Eric qui font cette remarque. Et c'est vrai que ça m'a intéressée. Il faut que je réfléchisse, sinon j'ai pas de. Mais non, six ou sept, non, c'est par amitié, mais je me sens fortement 19e-miste et très en dehors et en même temps très en dedans par d'autres choses, pas par le goût de lire et de l'émotion, de l'affect, etc., de beaucoup de choses. Mais non, je pense que j'ai pas une connaissance suffisante de l'œuvre et qu'elle est toujours faite un petit peu de manière très personnelle, sans désir d'écrire, de théoriser, de penser, je ne sais pas. Je ne suis pas écrivaine non plus, donc je pense que c'est aussi quelque chose qui me sépare, je ne sais pas.
Juste quand même un petit écho, Cathy. Je ne m'adressais à personne en particulier en parlant de la question du traumatisme. C'est que je me suis dit que voilà, qu'il fallait de temps à autre faire des signes, parce que ensuite s'inscrivent certains types de pensées qui sont ready-made ou qui appartiennent à l'époque, etc. Et que je comprends en plus, hein, mais justement auquel je tiens beaucoup à résister. Donc c'est alors moi je voudrais répondre aussi à la question. Moi, je ne crois pas. Enfin, je ne sais pas comment vous sentez la chose. Peut-être que vous vous êtes senti obligé, peut-être même à des politesses que je trouverais terribles. Enfin, moi, je ne suis pas sixousienne. Hein. Non. Par contre, je suis intéressée par la création d'un adjectif ou d'un qualificatif qui flotte. Alors, peut-être que c'est sixousien qui l'aura emporté, mais ça porterait sur des pratiques de langue et bon, mais très franchement je crois que ça m'étonnerait qu'il y ait du discipulat ou des appartenances ou des, j'y crois pas du tout, hein. et pas pour moi non plus, voilà. Par contre je crois à l'amitié, à l'amour, ça c'est autre chose, hein.